Michel Ancel, creative director de Rayman Origins.
Et Christophe Herral, compositeur, interprète, musicien, dessinateur de partitions, mais également sonorisateur de bruit.
Dessinateur de partitions.
Alors c'est un jeu, ce qui est important déjà, c'est de rappeler les fondamentaux, puisque c'est donc un jeu de plateforme. Jeu de plateforme donc vu de côté, en deux dimensions, mais avec un effet de profondeur, avec tout un travail sur les décors qui rappelle en fait un peu les dessins animés qu'on pouvait voir chez Disney à la grande époque du dessin animé en deux dimensions. Donc un monde vraiment vivant, mais avec finalement une façon de jouer qui reste très simple et qui... Et puis donc qui permet aussi d'évoluer avec des joueurs de moindre niveau comme Christophe, oui, qui est le musicien mais qui n'est pas le meilleur joueur de Rayman Origins.
Même peut-être le plus mauvais.
Voilà, il concourt dans cette catégorie du plus mauvais joueur. La différence principale, c'est qu'on peut jouer à 4 simultanément. Donc tout le système de jeu finalement a été transformé, la façon de découper les niveaux, mais aussi l'envie de faire des niveaux qui puissent être assez rapidement, assez challenge, puisqu'on peut assez vite... accéder à des zones un peu difficiles du jeu et tout en ayant finalement un niveau de jeu de base qui soit relativement simple. Donc le joueur choisit en fait de se challenger lui-même très très vite, ce qui permet justement à des joueurs de niveaux différents d'évoluer ensemble. Après sur l'univers on reste vraiment dans le délire total, on est vraiment entre le Rayman 3 qui était extrêmement délirant et la poésie de Rayman 1 et 2 où là on avait un monde assez immersif. Mais on a voulu vraiment aller dans quelque chose d'assez extrême sur les designs, etc. Et Christophe, d'ailleurs, au niveau de la musique, a fait une musique qui est très, très en rapport avec cette idée.
L'idée, c'était de parcourir des mondes et tout le temps essayer de trouver quelque chose de marquant et d'accorder un peu, comme avec un décor, d'accorder l'instrumentation avec chaque monde qui est quand même, somme toute, différent chaque fois qu'on en traverse un.
Oui, oui, oui. Là, je vais demander à Christophe d'aller chercher son ukulélé pour vous montrer le genre de surprise ou de délire qu'il a mis dans le jeu. Ouais, bah tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Christophe, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va travailler avec un orchestre, on sait qu'on va faire de la musique un peu film, mais il faut toujours garder la fantaisie.
Ouh, Amina glou glou, ouh, Amina glou, ouh, Amina glou glou glou. Ouh, Amina glou glou, ouh, Amina glou. Ouh, Amina glou glou glou.
Voilà, ce genre de choses.
Donc voilà, ça c'est le genre de délire de Christophe. En fait, quand on travaille sur un jeu comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose de drôle en fait. Et c'est comme ça pour les dessins. Donc les dessinateurs viennent avec des animations rigolotes et on essaye vraiment de mélanger le gameplay et le fun. Oui, c'était différent parce que Christophe a une façon de travailler différente. Il travaille de façon très intuitive. Donc, je décris un peu le monde, on parle aussi parfois de rythme, est-ce que ça va être une séquence tendue, est-ce qu'on est dans quelque chose de plus contemplatif. Et puis parfois même, c'est juste l'univers qui l'inspire, les couleurs, et à ce moment-là, la musique peut jaillir.
Oui, les concept art, les premières ébauches du monde faites par des artistes, des graphistes, et ça je me nourris de ça, moi j'aime ça.
En fait, c'est la même base de jeu, hein. C'est vraiment le même jeu. Vous pouvez vraiment faire la comparaison entre un DVD, donc qui va être basse définition, on va dire, comparé à un Blu-ray, où là, on a 6 fois la définition en fait, en quantité de finesse. Et c'est vraiment la différence principale, elle est là, en fait. Elle est sur la finesse de l'image, mais sinon, le jeu, sur Wii, est à 60 images secondes, en 4 joueurs, il n'y a pas de ralentissement. Ah oui, c'est le même jeu, vraiment. Peut-être quelques variations sur des définitions de texture éventuellement, mais c'est très peu notable. Alors la première étape, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on travaille pour la musique, quelque chose de très simple. C'est d'abord tout des dessins. Des dessins statiques qui représentent l'univers, des scènes de jeu, des choses comme ça. Et ensuite, avec un petit groupe de personnes, on commence à faire ce qu'on appelle des prototypes. Donc on joue avec un Rayman qui a que 2 animations par exemple. On peut que s'arrêter, courir, sauter, donc ouais, 3 animations. Et avec ça, on essaie d'aller le plus loin possible. Et dès qu'on voit qu'on est bloqué, on demande à des gens de faire plus d'animations. Donc à la fin, il y a, je crois, 500-600 animations sur le personnage principal. Il y a 4 personnages en tout. Puis tous les monstres, tous les boss. Donc là, à ce moment-là, il y a de plus en plus de monde qui arrive pour réussir finalement à faire que le jeu sorte dans les temps et le contenu qu'on avait prévu à la base. Voilà, moi je supervise deux aspects complètement différents. Un aspect, c'est effectivement l'univers, le monde. Le travail avec Christophe à nouveau sur l'esprit aussi.
L'esprit, c'est surtout l'esprit que nous, on fabrique tous les deux. Parce qu'en fait, quelquefois, les mots peuvent suffire. Quelquefois, l'idée même de faire du ping-pong, je me demande de faire quelque chose, je fais une proposition, il fait une contre-proposition. Et cette chose-là nourrit en fait vachement.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges.
Hein. Voilà, il y a de l'échange.
Il fait des choses que je n'attendais pas du tout.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant, je pense d'ailleurs, pour tous les gens qui s'intéressent à la création d'un jeu, c'est intéressant que tout ne soit pas écrit sur du papier. Et ça, souvent, les gens ont l'impression qu'il faut, si c'est tout écrit, tout va bien se passer et le développement va bien se passer. Il n'y a jamais un développement qui se passe bien quand tout est écrit. Parce que ça ne se passe jamais exactement comme les plans. Oh, je dirais que le gros de l'équipe, c'était une année. Vraiment, une équipe assez balèze. Et sinon, pendant une autre année, on a travaillé avec une petite équipe, une équipe plus réduite.
Ça dépend quel monde. Il y a des mondes qui sont vraiment spécifiquement basés sur la musique. Et en fait, on fabrique vraiment les éléments et on les anime avec le métronome de la musique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très lié. On a l'impression d'avoir une œuvre audiovisuelle sans le petit tiré entre les deux. C'est vraiment mergé. Puis il y en a d'autres qui sont des mondes plus... regarde les Water Glouglou, là, les Amina Glouglou.
Ce que tu as chanté.
Ce que j'ai chanté, c'est ça a donné lieu à... Moi, j'ai pensé un peu à Esther Williams et ces films où les femmes faisaient des ballets aquatiques. C'était Hollywood des années 50. Donc, il y a eu un petit ballet aquatique comme ça, magnifique, avec les lumes.
On a fait danser les personnages sur la musique de Christophe. Donc, c'est pour ça qu'on peut, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas toujours écrire à l'avance.
Non.
C'est des choses qui arrivent pendant le développement.
Oui, il y en a avec notamment vraiment un clin d'œil à la musique d'Ennio Morricone. Le western spaghetti dans sa splendeur, j'adore ça. Et quand Michel m'a dit « Oh, ce serait bien de faire un clin d'œil au western », moi j'ai foncé là-dedans parce que ça me plaît énormément. Quoi. Voilà. Après, oui, il y a toujours des références, hein, des petits clins d'œil comme ça, des choses. On a fait un hommage aussi, une sorte de concerto vibrant pour guimbarde et orchestre, parce que la guimbarde joue un rôle, c'est un instrument idiot, stupide, qui fait « doing, doing, doing ». Mais je sais pas, on y a donné on y a donné une couleur, un rayonnement.
Après, je sais place. Pas si on a cherché vraiment à faire un hommage à Mario. Je pense pas que c'était pas l'intention. Non, je pense pas. C'était...
C'est la forme en fait. La forme, elle était. C'est une forme qu'utilise Mario. Mais c'est tout. Si après, chacun va ressentir quelque chose. Voilà. En fait, c'était une musique de timing. Ça devait durer 9 secondes. Donc en fait, c'est un petit jingle qui doit venir tout le temps, qui est décliné avec plein de façons différentes de le jouer, avec des voix, avec des saxophones, avec... si ça fait penser à Mario, moi ça me dérange pas. Mario, c'est plutôt un bon jeu, hein.
Oui, mais disons que c'était pas l'idée à la base.
Voilà, c'est pas l'idée, voilà.
fait, le jeu est beaucoup plus facile, je dirais, plus accessible en tout cas, que les autres Rayman. Alors la démo, volontairement, on a fait du concentré. Le jeu est plus doux en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on va pas buter très vite comme ça sur des obstacles. Le jeu a une pente de progression très douce. Il y a plusieurs couches de difficultés, donc on n'est pas obligé de se mettre en danger tout de suite. Et surtout, en fait, on a vraiment fait en sorte que ce soit très progressif. Là où sur un Rayman 1, on avait dans le monde de la musique des niveaux très très durs, alors que c'était le deuxième monde. On a essayé d'éviter complètement ce genre de situation. Non, c'est dû au multijoueur. Mais en fait, le try and error, en fait, ou try and die, n'est pas lié au nombre de vies, parce qu'on peut très bien, dans Donkey Kong, il y a des vies, mais il y a aussi du try and die, et en fait, c'est deux choses différentes. Mais moi, j'avais envie d'enlever les systèmes de vie, parce que quand on est en multijoueur, ça pose un problème de savoir que certains joueurs consomment des vies et pas d'autres, et donc ça fait tout un système qui est inutile, en fait. Donc moi, je me suis dit, à un moment, on enlève le système de vie, et on peut recommencer. On va pas demander aux joueurs de recommencer toute une map, parce qu'il a plus de vie, et donc cette boucle-là, on l'a complètement enlevée, et je pense que tout le monde s'en porte pas plus mal, finalement. Aujourd'hui, c'est vraiment un jeu qui est, comme on dit, work in progress, qui est vraiment en cours de développement. Rien n'est figé. Aujourd'hui, on ne peut pas te faire des promesses maintenant qu'on ne pourra pas tenir, en disant c'est pour ci, c'est pour ça, etc. On est vraiment sur une phase de création où on se concentre que sur le jeu et on essaie de faire le jeu le mieux possible. Et après, je dirais, il ira là où on peut le faire tourner et c'est plutôt une bonne façon de travailler parce qu'on veut vraiment réussir ce jeu, quoi. Plutôt que de précipiter les choix en disant non, ça doit sortir en 2013 à tout prix, etc. Là, on est dans un schéma, finalement, on se dit, ça sortira quand ce sera prêt. C'est un peu dur à avaler, mais c'est pour le jeu. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu ambitieux, et on aura besoin de technologie pour le réussir. En fait, on avait déjà fait tout ça bien avant Mirror Edge. Et je dirais que ça n'a pas grand chose à voir parce que Mirror Edge, on est plus vraiment en vue à la première personne. Et là, c'est vraiment un jeu third en fait. Donc, on est plutôt en dehors du Prince of Persia et du Assassin que vers du Mirror Edge en fait. On est vraiment plus dans un contrôle de personnage à troisième personne. Après, c'est vrai que la caméra dans la démo là, elle est elle bouge beaucoup. Donc, ça peut donner cette impression d'une caméra très dynamique. Et c'est là pour donner l'impression justement de l'action, comme dans des reportages où il y a quelqu'un qui. La caméra a un rôle en fait, a finalement une vie. Donc ça peut faire penser à Mirror Edge, mais le jeu est complètement différent.
Beyond Good and Evil, Rayman Origins, Tintin le secret de la licorne.
Pas mal, musique et son. Donc moi j'ai travaillé sur des jeux depuis 1989. Mon premier jeu a été édité en 89-90. C'est un jeu d'ailleurs à trois joueurs, jeu d'action-réflexion. Et entre temps, effectivement, j'ai fait une dizaine de jeux, dont le dernier, Rayman Origins. Mais finalement, pour moi, entre Rayman Origins, qui joue à 4 joueurs en 2D, et mon premier jeu en 89, qui joue à 3 joueurs en 2D, il ne s'est pas passé tant de changements que ça. Et je pense que le jeu vidéo, c'est aussi ça, c'est une histoire avec des références. Et les jeux qui étaient bons il y a 20 ans, ils seront encore bons dans 20 ans, certainement. Si, c'est des solutions un peu... j'ai l'impression un peu de c'est une contre-réaction, en fait. Hein. C'est vrai que nous, quand on sort Rayman Origins, c'est qu'on voit qu'il est disponible en piratage sur toutes les consoles. Très très tôt, ça fait un peu un effet quand même, quand on travaille pendant 2-3 ans sur un projet. je pense que trouver des solutions, c'est pas obligatoirement toujours les meilleures qui sont les premières, c'est un peu des solutions de... Mais il faut faire quelque chose, parce que sinon on n'aura plus les moyens de faire des jeux vidéo. Donc il faut chercher encore. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, la meilleure chose qu'on va pouvoir faire, c'est de faire des jeux vidéo. Voilà, et donc de prendre du temps pour les faire. Ça, c'est vraiment le mieux, c'est notre façon de communiquer qui est la meilleure, je trouve.